c'est Émile Ivov qui vient de nous
rejoindre.
Bonjour Émile. Alors Émile Ivov, on a le grand plaisir d'avoir donc le créateur de Jitsi, qui est une solution libre, notamment de messagerie instantanée et de visioconférence. Donc bonjour Émile.
Bonjour, enchanté, merci pour l'invitation. Le plaisir est pour moi.
Eh ben écoute, c'est super. Donc on a parlé juste avant donc avec Laurent Joët d'un autre outil qui s'appelle Big Blue Button, mais Jitsi est un outil très utilisé et de plus en plus utilisé depuis le début du confinement. Alors déjà, l'idée c'est un petit peu d'avoir une présentation un peu de Jitsi et puis de ses fonctionnalités et des projets d'avenir. Déjà, première question, une petite présentation personnelle rapide. Qui es-tu, Émilie?
Ah, je suis Émile. Merci pour l'invitation encore une fois. En ce qui est de présentation personnelle, je suis né en Bulgarie. Je suis arrivé en France quand j'avais 21 ans, en 2001. C'était un programme Erasmus. Je suis tombé très vite sous le charme. J'aime la France. J'ai fini par devenir français. Et puis ça s'est très très bien passé par la suite. Aujourd'hui, je vis aux États-Unis. Et je continue toujours de travailler sur Jitsi depuis bientôt 17 ans.
D'accord. Alors, ce qui est intéressant, avant de parler donc de Jitsi, des fonctionnalités, c'est qu'en fait, le projet Jitsi, moi je ne savais pas du tout, a commencé donc en France, à Strasbourg, dans le cadre de ta thèse de doctorat. Donc, c'est toi qui as démarré ce projet donc, quand tu étais étudiant en France.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça a commencé même un peu plus tôt. C'était au début des IPv6. Je suis allé chez mon, à l'époque, directeur de stage et par la suite directeur de thèse, c'était Manuel, à l'Université de Strasbourg. Et je dis, j'ai envie de faire un téléphone sur IP. Il a dit, ça tombe bien, on en a besoin un qui marche sur IPv6. Et c'est comme ça que le projet est né. Ensuite, on a continué à le développer. On a utilisé beaucoup comme outil de validation pour ma thèse, qui était dans les communications en temps réel. Ensuite, on a créé, puisque c'est, enfin, la communauté a pris de vitesse, le projet a fini par être assez conséquent. Donc, avec mon partenaire Yana Stamcheva, on a créé une entreprise autour du projet pour fournir des services de consultation et de développement à la demande. Et puis, ça a duré quelques années. On a augmenté l'équipe, on a rajouté les fonctionnalités de visioconférence. Le projet a morphé. Il est passé depuis, en fait, il était au début un messenger, un peu comme une combinaison de Ikigai et de, enfin c'est non, hein, ça rappelle des souvenirs de Ikigai et de Pidgin, ouais.
Ensuite, la messagerie instantanée à la fois audio et textuelle.
Exactement. Et par la suite, on a vraiment mis l'accent sur le côté audio-visio-conférence. On a pris le cœur de Jitsi, on l'a mis dans le réseau, et c'est devenu le Jitsi Video Bridge avec toutes les composantes autour, et ça a donné Jitsi Meet. Par contre, il y a toujours des lignes de code, pas beaucoup, mais il en reste toujours des lignes de code qui ont été faites en 2003, donc c'est quand même le même ADN.
D'accord. Alors, j'ai une question sur le salon web là, de la radio. Je rappelle sur causecommune.fm, bouton chat, si vous voulez nous rejoindre, les personnes qui écoutent l'émission. Ce que dont tu nous parles là, c'était, tout ça, c'était en France ou il y a une partie qui était après quand tu as migré aux États-Unis?
Jusqu'à là, tout ce que j'ai dit, ça s'est passé en France, ouais.
D'accord, ok. Alors, donc, c'est intéressant de savoir ça parce que je pense que pour beaucoup de gens, Jitsi, c'est un produit, c'est un logiciel qui était principalement fait aux États-Unis. Alors, en fait, ça vient de quelque chose qui a été en France, donc l'Université de Strasbourg.
Ça a démarré à l'Université de Strasbourg et ensuite a continué assez pas mal de temps dans cette forme d'entreprise, de service, de start-up, petite start-up qu'on a monté autour. Donc pour 5-6 ans, on a fait ça. Et on a fini par se faire racheter par Atlassian, ce qui a complètement préservé l'aspect open source du projet. À un moment, Atlassian a décidé de sortir de l'industrie des communications en temps réel. Donc, on a été racheté à ce moment-là par 8x8, on a eu beaucoup de chance, parce qu'ils ont été encore plus dévoués à l'aspect open source. Ils font beaucoup vraiment pour soutenir la communauté, surtout dans ces temps difficiles là où ils récupèrent l'addition pour Midjitsi. Il y a pratiquement toutes les personnes qui bossaient à l'époque pour le projet qui sont toujours dedans, sauf que, aujourd'hui, la boîte qui paye les salaires, c'est 8x8 et ce n'est plus la petite start-up de l'époque.
D'accord. Alors ça, c'est intéressant d'aborder ce point-là. Je voulais l'aborder un peu plus tard, mais on va le faire maintenant. Donc, pour bien comprendre finalement, donc le projet a démarré en France il y a quelques années, principalement par toi et puis un de tes collègues. Et Aujourd'hui, donc, tu travailles pour une société donc, qui s'appelle 8x8 et qui continue en fait à développer et à payer des gens pour développer Jitsi, toujours dans un modèle logiciel libre.
Absolument, ouais. Absolument. C'est tout ce qu'on développe, dès que ça a du sens, ça part d'abord sur le projet open source. On récupère les paquets des biens du projet open source comme tout le monde. On en rajoute des customisations qui sont nécessaires pour les déploiements de 8x8. Ouais.
D'accord, ok. Alors ça c'est intéressant parce que ça, voilà, c'est un projet qui démarre finalement d'un projet de thèse et puis qui aujourd'hui, il y a combien de personnes d'ailleurs qui développent sur le projet Jitsi aujourd'hui?
Oh, ça dépend beaucoup de la définition. Hein. Enfin, si on prend la liste des contributeurs sur GitHub, on est dans les centaines. Ceux qui sont à plein temps dessus, on va dire que c'est une trentaine.
D'accord, c'est quand même un projet assez important. Alors, quelles sont les principales fonctionnalités, mais si tu as commencé à en parler, de Jitsi, et pourquoi est-ce aujourd'hui les gens utilisent Jitsi plutôt que d'autres en fait, solutions?
Ouais, c'est un outil de rendez-vous, de visioconférence. C'est important, c'est pas un outil téléphonique. D'accord, on peut pas s'appeler avec. On est censé se mettre d'accord d'abord sur un point de rendez-vous et on s'y retrouve. Donc c'est un outil de meeting, pour dire ça plus couramment. J'ai fait un blanc là. c'était quoi la deuxième partie de la question? Excuse-moi.
Bah, c'est quelles sont les principales fonctionnalités et pourquoi finalement les gens aujourd'hui utiliseraient Jitsi plutôt que d'ailleurs d'autres solutions telles que par exemple, on va citer des solutions privatrices comme Zoom ou autre.
Ouais, donc parmi les principales fonctionnalités, on va trouver vraiment enfin l'essentiel de ce dont on a besoin pour avoir des rendez-vous de travail. Ça, c'est quand même un outil qui est ciblé sur le monde professionnel. Donc, on peut partager son écran, on peut échanger des messages, on peut lever la main, on peut partager des vidéos, on peut partager le son. Enfin, je veux dire, ça se veut, dans sa forme Jitsi, ça se veut un médium de communication. Donc, pour qu'on puisse remplacer le médium physique par un médium à distance. Après, c'est pas vraiment, enfin, les fonctionnalités qui le démarquent des autres, même si, enfin, je veux dire, on peut partir dans les détails, mais ce qui est plus important, c'est ce qui aujourd'hui fait vraiment la différence. C'est deux choses principales. C'est il y a la facilité d'utilisation. On a beaucoup travaillé sur la friction d'utilisateur. On s'est vraiment assuré qu'on peut très vite rentrer dans un salon, très vite créer un salon. Donc ça, c'est important. Et ce qui est vraiment encore plus important dans ce domaine-là, c'est que en travaillant sur la friction, on s'est aussi assuré qu'on peut utiliser cet outil de façon complètement anonyme. On l'a fait principalement, enfin, à moitié dans un souci d'usabilité, d'ergonomie, mais aussi dans un souci de respect de vie privée, ce qui a toujours été au centre de projet Jitsi depuis ses premiers jours. Hein. Donc ce respect de la vie privée, de la sécurité se montre de plusieurs façons. La possibilité de l'utiliser de façon complètement anonyme en est une. Après, on a aussi ce qui le démarque vraiment et ce qui le rend parfaitement unique, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir des conversations hautement confidentielles, très privées, vous pouvez installer votre propre serveur Jitsi en 15 minutes. On travaille beaucoup pour s'assurer que ça soit le cas. On a des containers Docker, on a des paquets Debian. Ça prend vraiment 15 minutes de monter sa propre machine. Ce qui fait qu'à ce moment-là, vous êtes dans la sécurité parfaite puisque toutes les données qui partent sur le réseau sont chiffrées. Et à partir du moment où vous faites confiance au serveur, vous êtes protégé de tout ce qui pourrait...
Oui, des problèmes de fuite de données personnelles ou autres qu'il peut y avoir, par exemple.
Même au-delà, juste l'écoute. Ouais, voilà. Donc, vous avez des personnalités comme Edward Snowden, par exemple, qui utilise sa propre instance Jitsi Meet. Il donne souvent ses rendez-vous dessus. Sur France Inter, en septembre dernier, il a utilisé Jitsi. Vous avez la Freedom of Press Foundation qui recommande aux journalistes de faire de même. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très spécifique à Jitsi.
D'accord. Et je confirme pour avoir installé une instance Jitsi sur un serveur Debian. Donc Debian, c'est un système d'exploitation libre, que c'est vrai que ça prend une quinzaine de minutes. C'est, c'est très simple à installer, qu'ensuite en termes d'usage, c'est facile à utiliser. Sur le salon web, j'ai une question. Mais c'est clair, enfin franchement, c'est très simple à installer. J'ai une question justement. Est-ce que Emile peut expliquer la différence entre Jitsi et Jitsi Meet? Est-ce qu'il y a une différence?
Ah ouais, on est très fort en hommage. Hein, ça, les gens qui sont intéressés au projet ont dû se dire, hein, mais qu'est-ce qu'ils ont bu ces gens-là? donc Jitsi, on va dire que c'est le nom du projet, d'accord? C'est il y a plusieurs petites composantes, de plusieurs petits produits. Enfin, le nom de la communauté, c'est Jitsi. Ensuite, Jitsi Meet, si on doit être complètement correct, c'est ce qu'on utilise là en ce moment-là. C'est le JavaScript que vous chargez dans votre browser. C'est aussi un projet open source qui est une des composantes de l'écosystème Jitsi. Donc, quand vous installez votre propre instance, on va dire vous avez installé Jitsi Meet, même si techniquement derrière aussi Jitsi Video Bridge, il y a Jikofo, il y a Jigasi. Je vous ai dit on est très fort en hommage. Donc c'est Jitsi Meet, c'est ce projet-là. Après, souvent quand on parle de Jitsi, il y a aussi l'instance qui est le déploiement de référence. Qui est censé faire la démonstration de toutes les fonctionnalités, tout ce qui est possible avec Jitsi. On parle là de meet.jit.ci. Donc ça, c'est une instance de Jitsi Meet qui est maintenue par l'équipe 8x8. Encore une fois, normalement, c'était dans le but de faire une démonstration de tout ce qui est supporté par le projet Jitsi. Aujourd'hui, c'est aussi dans le but d'aider un petit peu par ces temps difficiles pour permettre aux gens de se retrouver plus facilement.
Alors d'ailleurs, on va préciser que c'est l'instance qu'on utilise pour diffuser l'émission du jour. Hein. On diffuse l'émission via Jitsi. Et donc, William ensuite diffuse sur le serveur de la radio et puis après, ça passe en FM. Alors justement, tu parles de la situation actuelle. Alors je suppose qu'avec le confinement, il y a eu une augmentation de l'utilisation de Jitsi. Donc, à la fois peut-être les téléchargements de l'outil pour installer des instances, mais aussi l'usage donc de l'instance principale, entre guillemets, qui est meet.jit.si. Est-ce que tu as des statistiques de cette partie-là, et avec peut-être une séparation entre Europe et États-Unis ou dans le monde? Est-ce qu'il y a des statistiques?
Ouais, donc on va le trafic sur Midjiti a augmenté à peu près la charge a augmenté à peu près de entre 50 et 100 fois, selon si on regarde la bande passante, les participants simultanés ou les participants en total. Ça a été monstrueux. On est passé, enfin, à l'époque, on avait partout dans le monde, on va dire, une cinquantaine de serveurs. Aujourd'hui, on frôle les 4000. Donc, ça a été extrêmement conséquent. Ça a eu des effets très positifs sur le projet lui-même, puisqu'on a révélé pas mal de bottlenecks dans les différents projets de Jitsi. Et il y a plein de choses qui ont été corrigées. Il y a plein de choses qui ont été corrigées dans l'infrastructure pour qu'aujourd'hui on puisse avoir une mise à l'échelle très très rapide, très automatique. Mais on va dire qu'il y a eu plusieurs nuits blanches avec plusieurs alarmes qui se déclenchent dans la nuit. Il y a Paris qui est tombé. C'est que c'était comme la guerre. Hein, c'est... mais depuis une bonne dizaine de jours, on va dire qu'on a réussi à mettre tout. Tout est très très stable et les gens peuvent communiquer. Après, sur les téléchargements et les instances que les gens installent, on a vraiment presque pas de statistiques dessus. Hein, ça fait partie du jeu. Donc là, je peux malheureusement pas trop fournir.
Oui, respecter l'anonymat et pas de statistiques. Voilà. D'accord. Ok. Alors, en annonçant le rendez-vous avec Émile, j'ai reçu pas mal de questions diverses et variées. Je vais te les poser parce qu'il y a une question qui revient souvent. Jitsi fonctionne mieux avec Chrome, Chromium qu'avec Firefox. Donc, pourquoi Firefox n'est-il pas complètement supporté par Jitsi? Et qu'en est-il de l'avenir? Est-il prévu côté Jitsi et ou de la Fondation Mozilla de travailler sur la prise en compte de Firefox pour Jitsi?
Ouais, c'est une prise en compte mutuelle. On est en train de travailler avec Niels et le reste de l'équipe WebRTC de Firefox pour s'assurer que tout fonctionne. Il y aura, je pense, au plus tard, d'ici 2 semaines, il y aura la première série de pull requests qui vont arriver et qui vont largement améliorer le support de Firefox.
Enfin, les pull requests, on va dire que c'est des modifications dans le code. On va simplifier les choses. Voilà.
Pardon. Donc, c'est les premières modifications qui vont atterrir en production. Et les gens pourront les utiliser sur Meet Jitsi ou sur leur propre instance Jitsi Meet. Ensuite, il y a les modifications qui sont nécessaires pour vraiment... là, il y aura quelques petits problèmes, comme la gestion de la perte des paquets, comme l'estimation de bande passante, hein, qui sont des fonctionnalités nécessaires du côté Firefox. Ils ont annoncé qu'ils ont complètement réprioritisé ces fonctionnalités pour le cas de Jitsi. Et ils ont annoncé que ça devrait arriver dans les versions stables d'ici 6 semaines. Donc d'ici 2 semaines, l'expérience devrait être largement améliorée. D'ici 6 semaines, on devrait être bon. Bon, la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est comme souvent, hein, c'est très complexe. L'évolution de WebRTC, c'est un écosystème extrêmement complexe qui est très, il est vraiment nouveau. Hein, il y a plein de nouveaux standards qui ont été développés dessus. Il y a plein de choses qui ont changé en cours de route. Et il y a plein de solutions qui ont été développées d'une manière. Après, le standard a dévié un petit peu, changé de direction. Après, il a fallu du temps aux différentes implémentations, que ce soit dans les browsers ou dans les produits comme Jitsi, pour s'y retrouver. Donc, il faut pas trop chercher une question. Enfin, c'est pas vraiment une question de choix stratégique. Hein, c'est simplement la vitesse d'implémentation technique. Ouais, c'est ça.
On va rappeler ou expliquer que WebRTC, en gros, c'est une interface de programmation qui permet de faire de la communication en temps réel sur le web et notamment au niveau des navigateurs. Alors, justement, j'ai aussi une question, remonter une question. Donc Jitsi s'appuie donc sur du WebRTC, donc du pair à pair, en fait, de la communication pair à pair. Et donc, pourquoi il y a quand même il peut y avoir des surcharges? Quelle est la raison technique?
Ah ouais, c'est une très bonne question. En fait, Jitsi est un pair à pair uniquement pour les conversations à deux. Quand il n'y a que deux personnes, vous êtes mis en direct, en connexion l'un avec l'autre. Ce n'est pas possible vraiment de bien implémenter ça au-delà de deux personnes, puisque en gros, vous avez besoin de multiplier vos propres flux d'autant de fois. Genre, si vous discutez avec 10 personnes, il va falloir envoyer vos flux en HD 10 fois. Donc, on part... Les demandes sur votre bande passante passent de 3 mégabits à 30. Et ça, c'est sans même parler du fait que, vu la façon dont WebRTC est implémenté, vous serez obligé de faire 30 fois le même encodage aussi. Donc, vous n'aurez tout simplement pas les ressources. Donc, ce qu'on fait, c'est Jitsi Video Bridge. C'est un routeur vidéo. Donc, il est dans le réseau. Il n'a pas besoin de décoder les paquets. Par contre, il les route. Quand il y a toi, Frédéric, maintenant on est à trois avec William, toi et moi. Donc, quand toi, tu envoies tes flux sur Jitsi Video Bridge, il ne les décode pas. Il va choisir peut-être de ne pas en renvoyer certains, puisqu'on fait du encodage vidéo en couche de plusieurs résolutions. Donc, en fonction de ce que tu regardes, est-ce que moi, je suis en plein écran? Est-ce que je suis un petit carré d'un autre côté. En fonction de ça, tu vas recevoir soit mon flux haute qualité, soit mon flux basse qualité. Le Jitsi Video Bridge va se charger également d'estimer la bande passante qui est disponible jusque chez toi pour t'envoyer ce que tu peux te permettre de recevoir. Donc, il y a quand même une charge serveur qui est très, très conséquente pour tout ce qui n'est pas une conversation pair à pair. Même dans les conversations pair à pair, il est possible des fois que c'est une connexion directe n'est simplement pas possible pour des questions réseau. Donc à ce moment-là, on passe par des relais turn. Donc là aussi, on a besoin d'infrastructures pour assurer ça.
Oui, c'est le cas notamment quand les personnes sont par exemple derrière des box filtrées ou autres. Enfin voilà, c'est pour des raisons techniques. Bon, on va peut-être pas rentrer dans le détail trop parce que sinon, effectivement, c'est. Mais en tout cas, c'est intéressant de savoir effectivement cette notion que quand on est deux, c'est généralement c'est du pair à pair et au-delà, c'est autre chose. Donc, je continue sur la liste des questions tout en suivant l'horaire parce que le temps avance. Alors, il y avait une question. Donc, tout à l'heure, tu as parlé du respect de la vie privée, quelque chose qui vous tient à cœur. Et quelqu'un m'a fait monter la question. Pourquoi dans les serveurs que vous utilisez, il y a les Google Analytics, c'est-à-dire donc les analyses web de Google?
Ça, c'est une super question. D'abord, il y en a plus. Hein. Depuis à peu près une semaine, il y a plus de Google Analytics dedans.
D'accord.
On a fait surtout. Alors déjà, si on pensait que, si nous on croyait que ça enfreignait la vie privée, on ne l'aurait pas fait. Notre estimation de l'époque était que les données qui arrivent à Google, qui sont des données principalement techniques dans notre cas d'utilisation, sont dans le respect de la vie privée. Il n'y a pas de optimisation de marketing qui sont utilisées. On le faisait simplement pour observer l'utilisation du trafic, l'utilisation du service. Effectivement, Google Analytics inquiétait les gens, donc on s'est débrouillé pour s'assurer que les statistiques des statistiques techniques de maintenance du service, on va les récupérer ailleurs, on a enlevé Google Analytics. Par contre, il faut quand même rappeler que pour maintenir un service, il faut pouvoir l'observer, c'est juste nécessaire. Donc, il y a toujours besoin des analytics. Et je comprends que des fois, il y a des gens qui sont tout simplement pas OK avec ça. Et c'est pour cette raison-là qu'il est très facile d'installer sa propre instance du Teamit.
D'accord. Alors, je continue dans les questions. Et là, il y a une question alors, qui est sur le salon web, mais qu'on avait déjà remontée. Donc, je vais la reposer. Alors, pourquoi limiter la publication des vidéos qu'à travers un truc privateur comme YouTube et pourquoi pas avec PeerTube dont on a parlé tout à l'heure?
Ouais, ce n'est pas une question de limitation, c'est simplement une question d'histoire de cette fonctionnalité. Cette fonctionnalité a été rajoutée pendant qu'on était encore chez Atlassian dans le cadre d'une initiative qui était de supporter les assemblées globales d'Atlassian sur Jitsi. Et là, YouTube, pour des raisons diverses, c'était le service qui était le plus compatible avec les besoins de ce cas d'usage. Donc, on a tout simplement démarré par là. Il y a pas mal de gens qui sont OK avec ça. On a aussi eu la notion que, en gros, quand vous faites un flux public, il est public, quoi. C'est pas, y a pas tellement de questions de vie privée qui se posent. Après, il faut dire que dans le projet, là, il s'agit de l'instance Midjitsi, d'accord? Ouais. Le projet qui supporte cette fonctionnalité, il s'appelle Jibri. Il est très facilement modifiable, d'accord? La destination qui est choisie pour envoyer les flux, elle est dans un petit script, quoi. Donc, c'est très simple d'aller émettre d'autres services. Et sur ce propos, justement, on a nos problèmes avec YouTube, principalement parce qu'il est assez difficile d'implémenter un bon cas d'usage. On aimerait bien que quand il y a un live stream et que vous arrivez dans le meeting, vous voyez d'abord le live stream pour que vous n'ayez pas besoin de continuer vers la conférence elle-même, et qu'il y a d'autres boutons ensuite qui vous permettent de le faire si vous avez besoin. Et ce genre d'intégration, il est plus complexe, la gestion des URL, tout ça, c'est très difficile à mettre en œuvre avec YouTube. Donc, on est en train de regarder PeerTube justement pour avoir notre propre infrastructure de live streaming. Mais encore une fois, ce n'était pas une question de on va faire YouTube et rien d'autre. C'était YouTube, c'est juste le premier pas le plus facile par lequel on démarre ce projet.
D'accord, super. Alors, il nous reste environ 3 minutes. Je vais te donner donc les 2 dernières questions en même temps. Il y avait une question qui était, est-ce que Emile compte commercialiser une version plus aboutie de Jitsi? Et ensuite, la dernière question, c'est quelles sont les prochaines fonctionnalités qui vont être intégrées dans Jitsi?
Une version commerciale qui intègre les technologies de Jitsi existe déjà, proposée par 8x8. C'est pas une question de plus abouti. Comme j'ai dit, on utilise les mêmes projets open source pour ce service que tout le monde. C'est plus une question de, Midjitsi est un service anonyme. On n'a pas d'identité. Donc, on peut pas proposer des services qui ont besoin de l'identité. Vous permettre de sauvegarder vos enregistrements, avoir une historique de vos rendez-vous, synchroniser les différents équipements que vous utilisez. Tout ça, ce n'est tout simplement pas faisable sur Midjitsi vu que c'est un service anonyme. Et c'est ce genre de services qui sont proposés par 8x8.vc, qui est la version commerciale. Ensuite, sur la deuxième question, les fonctionnalités sur lesquelles on travaille. Il y a un truc qui m'excite énormément. On a beaucoup parlé du cryptage, du chiffrement end-to-end, de bout en bout. Donc, j'aimerais bien passer une minute à parler sur ça. Aujourd'hui, comme j'ai dit, tous les données avec GT qui sont envoyées sur le réseau sont chiffrées sur le réseau. Par contre, les outils de chiffrement qui sont utilisés aujourd'hui font que le serveur, il établit son propre contexte de chiffrement avec chaque participant. Ces contextes sont différents. Donc, on a besoin de récupérer les données d'une personne, les décrypter et les encrypter de la manière dont l'autre personne souhaite les recevoir. C'est pas possible d'avoir un chiffrement où le serveur n'est pas capable de regarder dans les paquets. Donc, nous, on n'a vraiment pas besoin d'avoir cet accès pour proposer le service. On ne veut pas l'avoir, mais techniquement, c'est impossible de ne pas d'y arriver. Ou en tout cas, ça l'était jusqu'à récemment. Il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent dans les browsers qui vont nous permettre de le faire. Donc, très rapidement, on espère faire des annonces qui vont justement permettre à tout le monde d'avoir le chiffrement de bout en bout dans GT. Donc, je veux rappeler juste que normalement, c'est une problématique qui ne devrait pas vous poser de soucis si vous avez votre propre instance, puisque vous la contrôlez. Il n'y a pas de souci, mais ça devrait vous permettre d'utiliser des choses comme MeetGT avec à plus de confiance. Vous n'aurez pas besoin de nous faire confiance à nous. Ça serait tout simplement dans le protocole. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui nous excite énormément.
D'accord, bah écoute, c'est super. Et donc, j'encourage les personnes à suivre les annonces, sans doute, sur jitsi.org. À tester aussi donc sur meet.git.si on a parlé juste avant donc des chatons du collectif donc chatons qui propose notamment des instances Jitsi. Vous pourrez les retrouver sur le site entraide.chaton avec un s.org, donc des instances qui sont principalement gérées en France, et vous pouvez, comme l'a dit Émile, installer vos propres instances très facilement sur des serveurs libres. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose, Émile?
Merci encore une fois pour l'invitation et si vous souhaitez aborder des sujets dans le futur en plus de détails, vous savez où me trouver. Merci.
Bah exactement. Écoute, en tout cas, merci de ta participation. Donc, on a fait l'échange sur une instance Jitsi, donc l'instance Jitsi, meet.jitsi. Donc, avec Émile Ivov du projet donc Jitsi. Je te souhaite de passer une bonne fin de journée, Émile, et à bientôt.
Merci, Fred. À bientôt.
Merci en tout cas.